Bonjour à tous. Pas de gros dégâts en Deux-Sèvres malgré des rafales de vent à 100 km par heure générées par le passage de la tempête Goretti. Les pompiers du SDIS sont intervenus à 7 reprises hier matin et ont relayé une petite vingtaine de demandes d'intervention vers le service route du département. Selon Gérédis, quelques 500 foyers de Sèvres ont été privés d'électricité au pic de la tempête. Leur remise en tension a débuté hier matin au lever du jour.
Deux-Sèvres Nature Environnement plaide pour protéger l'eau potable des pollutions.
Dans un plaidoyer publié en fin d'année dernière, l'Association de protection de la nature et de l'environnement demande l'interdiction des pesticides et nitrates dans les aires de captage d'eau potable. Une priorité pour DSNE qui souligne l'urgence de la situation. On compte 12 aires de captage d'eau dans les Deux-Sèvres pour 84 forages dont, je cite, « beaucoup sont fermés à cause de la trop mauvaise qualité de l'eau qu'on y pompe ». Fabienne Babin est l'une des administratrices de DSNE. Elle est au micro Colline de Fabien Gazot.
Il y a beaucoup de nitrates dans les Deux-Sèvres. C'est un problème quand même énorme. Les Deux-Sèvres sont classées zones vulnérables aux nitrates, pratiquement la totalité des Deux-Sèvres. Donc c'est pour ça que nous, on a fait un plaidoyer à la fois pesticides et nitrates. C'est à la fois un problème de santé humaine et puis ça impacte aussi les écosystèmes aquatiques. Donc ça, c'est pour le côté environnement. Et en tant que citoyen, c'est aussi un problème financier. Parce que ça coûte beaucoup plus cher de dépolluer, donc d'avoir une action curative, que d'avoir une action préventive et d'interdire les pesticides et les nitrates dans les aires de captage.
L'interdiction des pesticides et nitrates dans les aires de captage d'eau potable impacterait en premier lieu les agriculteurs, mais Deux-Sèvres Nature Environnement invoque en compensation un paiement pour les services environnementaux beaucoup moins cher pour la société et profitable à ceux qui travaillent la terre. Aux côtés de DSNE, l'association de défense des consommateurs, l'UFC Que Choisir, a lancé une campagne intitulée « Goutte de trop ». Hugues Mimot, référent santé, demande plus de mesures de protection des captages au micro de l'E4B.
Pour avoir de l'eau potable, il faut traiter. Les traitements coûtent très très cher et c'est les consommateurs qui payent cette dépollution à travers leur facture d'eau. Donc nous, on demande que des mesures réglementaires soient prises au niveau des captages d'eau pour éviter les pollutions dans leur ensemble. Et on sait, à travers les expériences qu'ont fait certaines villes et en France, à Lons-le-Saunier par exemple, ou dans des pays proches en Allemagne, que aider les agriculteurs à avoir une pratique plus saine coûte moins cher que de les laisser faire les pratiques traditionnelles de l'agriculture industrielle et de payer les dépollutions plus après.
Toujours selon Deux-Sèvres Nature Environnement et l'UFC Que Choisir, les secteurs des plaines céréalières du Thouarsais et du Niortais sont les plus touchés par cette pollution de l'eau.
227 000 visiteurs en 2025 pour le parc oriental de Maulévrier.
Un chiffre stationnaire, 227 000 contre 230 000 en 2024. Pour ses 40 ans d'ouverture au public cette année, le plus grand jardin d'inspiration japonaise d'Europe a de nouveau confirmé qu'il était bien une des locomotives touristiques du territoire. Ce jardin centenaire a été magnifiquement restauré au fil des années. Plantation de près de 500 végétaux, création artisanale de barrières en bambou par un maître japonais, optimisation hydrique, réaménagement paysager et amélioration des espaces d'accueil pour une expérience pour les visiteurs encore plus fluide, plus agréable. D'autres travaux sont actuellement en cours, comme l'explique Fabrice Genteau, chargé de communication du site.
On a terminé il y a quelques temps l'île du soleil couchant, donc là ça nécessitait des gros engins de chantier. Cette année les travaux sont un petit peu moins importants, mais ils ont une fonction là aussi esthétique extraordinaire. Il y a des éléments qui vont être ajoutés, des plantations, des enrochements sur des parties du jardin qui vont ajouter évidemment au côté japonais de la promenade et puis au plaisir aussi visuel de la promenade. Donc on a des chemins comme ça qui vont être travaillés en rocher avec des nouvelles plantations, certains aménagements aussi un petit peu plus conséquent sur des places que l'on a dans au travers de la promenade, notamment dans la partie à proximité du salon de thé et du pavillon des plantes.
Après ces travaux, la saison 2026 débutera le 12 mars avec le Hanami, la traditionnelle fête des cerisiers en fleurs, invitant à des promenades poétiques jusqu'à la fin du mois de mars.
C'est le moment où, comme au Japon, nous, on va autoriser le pique-nique dans le jardin. Donc ça permet aux promeneurs de non seulement profiter de cette floraison extraordinaire, mais aussi de pouvoir profiter du jardin et de pique-niquer dans le jardin. Et puis la saison va continuer, hein, évidemment, là, à peu près eu un événement chaque mois. Kodomonoi, qui est plus axé sur les enfants. Le bonsaï show, hein, l'art des bonsaïs, évidemment. Le kamiplay, après, en juillet, avec, là, ici, les cosplayers. Donc, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Les peintres au jardin. Matsuri, ça, ce sont les arts traditionnels du Japon qui sont mis en avant. Les musicales. Et puis, Momiji. Et là, Momiji, comme cette année, c'était une première, hein, en 2025. En 2026, on reconduit avec un pique-nique sous les érables aux couleurs de l'automne. Donc là, c'est vraiment des éléments et des événements qui tournent autour de la culture du Japon.
Sans oublier les nocturnes du parc, les soirs d'été, le jardin sera de nouveau illuminé et tamisé au gré des contes japonais sélectionnés ici et là.
Auto Rétro Bressuret prépare déjà le prochain Grand Prix automobile.
L'association tenait son assemblée générale hier soir à la salle des congrès pour évoquer principalement la 18e édition qui aura lieu les 27 et 28 juin à Bressuire, toujours autour de la place Saint-Jacques. C'est un rendez-vous très prisé et populaire puisque 10 000 personnes viennent admirer les voitures de collection, mais aussi les motos depuis quelque temps. Le président Jean-Claude Fillon.
Parce qu'on a trouvé que c'était un sport mécanique, hein, bien sûr, et que ça avait sa place aussi au Grand Prix automobile, même si l'historique, c'est que c'était des voitures. Eh ben, ça fait aussi le bonheur de certains spectateurs qui sont voilà plus moto que voiture. Et puis, pour les voitures, ben, on garde toujours nos quatre plateaux habituels, hein, tourisme, sport, cycle car et monoplace. Et puis, tous les ans, on a un plateau invité. Alors, on se rappelle que l'an dernier, c'était les Coccinelles. Donc, cette année, on va changer. On va prendre une voiture Renault, une 4 la 4 chevaux, qui est née en 1946, donc on va pouvoir fêter cette année en 2026 les 80 ans de la 4 chevaux avec un plateau, j'espère, d'une dizaine ou d'une quinzaine de voitures. On fait un plateau spécial avec ces 4 chevaux qui étaient dans le plateau tourisme et puis d'autres voitures qu'on est en train de rechercher qui sont un petit peu plus performantes, un peu plus sportives et qui sont sur des bases de 4 chevaux mais qui sont des voitures qui ont couru notamment sur Le Mans ou des grandes courses comme ça et il en existe encore donc on est en train de rechercher tout ça pour faire plaisir à nos spectateurs.
La préparation du prochain Grand Prix a donc déjà débuté et les questions liées à la sécurité occupent déjà beaucoup de place et sont gourmandes sur le plan budgétaire.
On a un budget de 50 000 et les bottes de paille, je crois qu'on est à 4 000, plus la mise en œuvre, l'enlèvement, la main d'œuvre, oui, c'est à peu près 10% du budget, mais ça, c'est une contrainte de la commission départementale de sécurité, de la sous-préfecture, et on peut pas faire autrement. On est obligé de suivre les consignes.
Alors, 50 000 de budget sur une manifestation gratuite pour le public, ça veut dire qu'il faut aller chercher des partenaires, hein.
Ah bah oui, alors au niveau des partenaires, on a la chance d'avoir encore 180 partenaires qui nous suivent, qui nous soutiennent, malgré les 3 ans d'arrêt qu'on a eu par rapport au Covid, comme beaucoup d'associations. On est reparti, ça a été un petit peu difficile, mais on a réussi à garder tous nos partenaires et tous nos bénévoles. Donc voilà, nos ressources, c'est ça, l'engagement des pilotes qui payent un petit peu pour s'engager, parce qu'ils ont en retour une prestation. Et puis aussi, bah, tout ce qui est nos ressources propres sur le circuit, sur le paddock, sur le site, c'est-à-dire la restauration rapide, la buvette, la boutique, etc.
Auto Rétro Bressuret prépare donc déjà la 18e édition du Grand Prix historique de Bressuire. Ce sera les 27 et 28 juin. Bien entendu, nous y reviendrons. Reportage signé Fabien Gazot. Le fauteuil rouge de Bressuire projettera en avant-première ce soir à 19h le nouveau film de Christophe Baratier, à qui l'on doit Les Choristes, Les Enfants de la Résistance, adaptation de la bande dessinée belge du même nom et en présence du réalisateur au casting de ce long métrage, Artus ou encore Gérard Jugnot.
On enchaîne, Patrice, avec l'actualité sportive.
En basket, avec le play-in retour de la Ligue des Champions pour CB hier soir face aux Turcs de Tofas qui s'était imposé à domicile mardi dernier. Match que vous avez pu suivre en direct sur Colline. Les Choletais devaient impérativement remporter la rencontre pour espérer une belle sur le parquet turc. Devant leur public, les Choletais ont assuré offensivement hier soir et se sont imposés 105 à 86, s'offrant ainsi la possibilité de poursuivre l'aventure en BCL. Mais encore faudra-t-il battre les Turcs sur leur parquet la semaine prochaine et la tâche ne sera pas aisée, comme le confirme Fabrice Lefrançois, le coach Choletais au micro-colline de François Larue.
On sait que ça va être difficile là-bas. On sait qu'on a moins de 48 heures pour jouer, qu'il y a un long déplacement qui sera pas simple. Donc voilà, il faut que dès demain matin, on reparte avec toute notre énergie sur le prochain match. C'est une équipe sur 11 matchs à domicile, on n'a perdu qu'un seul contre Tenerife. Aller gagner là-bas, ce sera un exploit. Moi, j'y crois.
Le match d'appui en Turquie aura lieu mercredi prochain, le 14 janvier. En football, en National 2, le match de Choré à Poitiers a été reporté. Quelques rencontres en retard devraient se jouer ce week-end. Week-end marqué par le 4e tour de la Coupe Nouvelle-Aquitaine. On retardera le déplacement de Cerizay au FC Comores. En Régional 2, Avenir 119 accueille Montmorillon. En Régional 3, SC-Toircé contre Bressuire, Gatifoot reçoit Montcoutant, l'Entente Chanteloup-Cour-les-Chapelles se déplace à Noyers, Sud-Gatine accueille Nintré et le Pays Mélois s'en va jouer à Saint-Palais chez les filles en Régional 2. Déplacement des Bressuraises à Limoges. En rugby, en national, Niort-Narbonne cet après-midi. Un match à suivre en direct sur Colline dès 15h. Après une coupure de 15 jours, les rugbymen sont revenus en forme, mais la neige et le verglas ont compliqué la réception de l'un des poids lourds de ce championnat, puisque Narbonne est en deuxième position. Damien Neveu, le manager général du New York Rugby Club.
Gros challenge qui nous attend. C'est fait partie des favoris de ce championnat avec l'effectif, la densité, la profondeur qu'il faut pour avoir ces ambitions-là. On les a déjà joués, mais c'est plus la même équipe. Voilà, plus le même visage. Aujourd'hui, c'est une équipe qui a trouvé son rythme de croisière, qui tourne à plein régime sur que ce soit tous les secteurs, avec des joueurs forts sur lesquels ils s'appuient beaucoup et qui peuvent évidemment les mettre dans de bonnes conditions. Donc il va falloir être capable de rivaliser. Je parlais d'intensité, de combat parce que forcément il va falloir être présent là-dessus et aussi qu'on soit dans la maîtrise et dans la justesse, que ce soit technique ou stratégique.
New Rugby Club face à Narbonne, c'est ce samedi à 15h au stade Espinassou, à suivre sur Colline en direct avec Grégory Didier et Jean-Marie Bidab. En rugby, toujours en Fédéral 3, à retenir que Partenay reçoit Royan. En Régional 1, déplacement de Choré au Bousquin. En Régional 2, Nouvelle-Aquitaine, le COB accueille Maran. Du handball également. En National 1 féminine, les Celloises reçoivent Fleury. En National 2 féminine, déplacement des Celloises à Mérignac, alors que Montcoutant reçoit Saint-Nazaire. En tennis de table pour le compte du championnat de Pro A, la Romagne recevait hier soir Torigny-Fouillard, formation de la banlieue de Rennes. Les Romagnons sont imposés 3-2. Et puis ne manquez pas le premier SMD de 2026, demain à 10h. L'émission sera présentée par Fabien Gazot.
Quel temps aujourd'hui ? Découvrez la météo avec Céolis, votre fournisseur d'électricité et de gaz en Deux-Sèvres.
Journée calme, Patrice.
Un samedi relativement bien ensoleillé, en effet, au programme. Les températures toujours autour de 3-4 degrés actuellement atteindront 7-8 aux heures les plus chaudes de ce début de week-end. Les nuages envahiront notre ciel la nuit prochaine et nous les retrouverons tout au long de la journée de demain, mais apparemment sans apporter de pluie. Les températures resteront identiques à ce samedi.
Merci beaucoup, Patrice. Voilà pour l'actu près de chez vous ce matin et pour cette semaine, le retour lundi.
Avec Fabien à 7h02. Quant à moi, je vous retrouve cet après-midi aux côtés de Grégory et Jean-Marie pour la rencontre entre Niort et Narbonne, coup d'envoi à 15h.
C'était la météo avec Céolis, votre fournisseur d'électricité et de gaz en Deux-Sèvres. L'énergie est notre avenir, économisons-la.